Je veux emmener nos aventures au-delà d'un amour Disney. Je veux emmener nos aventures au-delà. Au-delà, il y a des choses que personne ne voit. Au-delà, il y a des choses qu'on essaiera. Et quand la tendresse manquera, on se souviendra qu'elle est toujours là, en lisant les mots doux laissés dans tous nos carnets. Et quand tu auras besoin d'amour, mon amour à moi s'envolera. Et où que tu sois dans le monde, il se posera. Et quand il pleuvra dans tes yeux, je te prêterai mon parapluie bleu qui protège nos cœurs et nos corps de tous nos remords. Je veux emmener nos aventures au-delà d'un amour Disney. Je veux emmener nos aventures au-delà. Au-delà, il y a des choses que personne ne voit. Au-delà, il y a toutes ces choses qu'on essaiera. Et quand la foudre me frappera, je le partagerai avec toi. Et que tu sois près ou loin de moi, cela suffira. Et quand le grand âge nous gagnera, mon visage ridé sourira en pensant à nos amours qui auront duré toujours. Et quand nous serons partis, ce que l'on a vécu restera inscrit dans les âmes et les cœurs éblouis de tous nos amis. Je veux emmener nos aventures au-delà d'un amour Disney. Je veux emmener nos aventures au-delà. Au-delà, il y a des choses que personne ne voit. Au-delà, il y a des choses auxquelles on a droit.
Bonjour, bonjour à tous. Avant tout, un tout grand merci à tous celles qui rendent cette tribune possible, ces paroles entendables. Nous venons ici en tant que personnes handies. Nous aimerions évoquer une oppression systémique supplémentaire à ajouter à la déjà trop longue liste de celles que cette occupation questionne quotidiennement. Nous aimerions évoquer le capacitisme et le psy-validisme. Le capacitisme ou validisme est une forme de discrimination, de préjugé ou de traitement défavorable contre les personnes vivant une situation de handicap. Le psy-validisme est l'oppression s'exerçant sur des personnes neuroatypiques et ou psychiatrisées. Le système de valeurs capacitistes, fortement influencé par le domaine de la médecine, place la personne capable aux besoins standardisables, dites valides, comme la norme sociale. Les personnes non conformes à cette norme doivent ou tenter de s'y conformer ou se trouver dans une situation morale et matérielle inférieure aux personnes valides. Dans ce système de valeurs et de pouvoirs, ce qu'on appelle le handicap est considéré comme une erreur, un manque ou un échec, et non pas perçu comme une conséquence de la diversité au sein de l'humanité ou des événements de la vie. La Convention relative aux droits des personnes handicapées définit l'absence d'accommodement raisonnable en faveur des personnes non valides comme une discrimination fondée sur le handicap. En d'autres mots, le handicap est créé par la société qui ne fait pas l'effort de l'inclusion de tous et met certaines personnes en situation de handicap par choix structurel. L'origine de ces oppressions spécifiques, sous leur forme institutionnelle, comme de celles qui s'en prennent aux personnes au genre ou à la sexualité non conforme ou aux personnes racisées, trouvent leurs racines chez nos ancêtres colonisateurs. Et leur impératif besoin d'associer les différences rencontrées chez les autres à de la soi-disant primitivité. Notre médecine n'a jamais hésité à se servir de la science, parlant tantôt de taille de crâne, tantôt de quotient intellectuel, ou plus récemment de gène, pour prouver de la façon la plus fallacieuse qui soit la supériorité biologique d'une élite sur le reste de la population, appelant même ça le déterminisme biologique. Ce courant de pensée qui est à la base de nos constructions sociales actuelles de genre et de comportement normé, c'est l'eugénisme, qui a toujours tendu, ouvertement ou moins ouvertement, à une soi-disant purification de l'espèce humaine, établissant comme plus évoluées les personnes correspondant à un modèle blanc, cisgenre, hétérosexuel, neurotypique et valide, qualifiant toute personne ne rentrant pas dans ces critères tantôt de faible d'esprit, tantôt de sous-développé, légitimisant par des statistiques tronquées la criminalisation du métissage, la stérilisation, l'enfermement ou l'exclusion de manière générale. C'est notre histoire. Apprenons-la, transmettons-la et ne l'oublions plus. Déconstruire les préjugés que cette histoire nous a transmis implique préalablement de prendre conscience que certains privilèges nous y conduisent. Virginie Despentes a dit « Je ne peux pas oublier que je suis une femme dans cette société. Par contre, je peux oublier que je suis blanche. C'est ça le privilège. » Nous bénéficions aussi de ce privilège qu'elle évoque, mais nous n'avons pas la possibilité d'oublier que nous sommes atypiques. Comme nous savons qu'il est complexe d'inclure des personnes qui se cachent souvent, que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît donc pas, nous nous présentons devant vous pour témoigner. Au cours de ces occupations, et depuis que le Théâtre National et Bezette la Monnaie occupée accueillent les déconstructions et les reconstructions de pensées que nous sentons tous ici nécessaires, il reste malgré tout des oubliés. Ces oubliés sont toutes les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas la possibilité d'être ici physiquement, avec vous, avec nous, malgré le fait d'être impactées par cette situation qui crée le besoin de repenser ensemble. Quelles que soient les raisons, quelles qu'étaient nos raisons pour ne pas avoir su venir avant aujourd'hui, ces personnes et nous-mêmes avons fait face à diverses injonctions, des choses que l'on entend souvent lors d'événements où l'on hésite à se rendre. Nous nous sommes entendus dire qu'il fallait venir physiquement pour participer, qu'il fallait appeler au téléphone pour des échanges d'informations, que tout le monde était gentil, sous-entendu qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Parmi les personnes que nous évoquons, il y a celles qui ne savent pas venir physiquement, mais il y a aussi celles qui éprouvent de la peur par suite de choses vécues dans des situations de groupe et ne se sentent pas légitimisées par les codes en place dans beaucoup des espaces habituellement proposés. Du coup, il serait très utile pour tous de demander les besoins spécifiques, parce que leur non prise en compte peut rendre l'accès compliqué, voire impossible. Tous celles parmi vous qui ne vous identifiez pas comme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, valide ou neurotypique, ou qui n'êtes pas suffisamment confortable financièrement pour pouvoir vous arrêter de travailler, vous savez que les choses ne sont pas aussi simples que de prendre ses chaussures et ramener sa fraise. Laissons participer autrement les personnes qui ne peuvent pas venir. Nous, par exemple, ne pouvions participer que virtuellement, manquant les débats à notre grand regret, mais tenant à être présentes sur les pages Facebook, sur les conversations Signal. Nous tenions à investir de l'énergie à nous exprimer là où cela nous était possible et nous semblait opportun, à prendre la parole que nous avons et estimons légitime quand cela semblait approprié, à bénéficier ainsi d'un espace de parole où nous ne serions pas interrompus, où nous pourrions penser nos propos, les peser et les choisir, où nous pourrions enfin, en tant que personnes transgenres, queer et neuroatypiques, développer et partager nos pensées avec d'autres et prendre part à ce moment important. Nous voyons quotidiennement, ici et là, se manifester plusieurs formes de psyvalidisme dans la vie de tous les jours. Des mots traversent les échanges, des mots qui nous stigmatisent, souvent sans en avoir conscience, qui nous excluent et qui nient de fait notre existence. Des mots auxquels nous sommes habitués et dont l'omniprésence dans le langage participe au fait que nous menons une vie plutôt retirée, n'ayant pas l'énergie de devoir toujours choisir entre subir en silence et se lancer dans des débats sans fin. Quand on fait partie d'un groupe social qualifié de minorité, on s'épuise vite à devoir rappeler son existence à chaque fois qu'on interagit. On s'épuise vite à devoir s'expliquer sur comment on fonctionne à chaque fois qu'on demande de l'aide pour un problème qu'on rencontre dans une situation où l'on n'est pas pris en compte. On s'épuise vite à devoir toujours parler en détail de ce que l'on vit. Cultivons la patience et l'écoute. Tout dernièrement, on a fait l'effort de poster sur la page Facebook de l'Occupation du Théâtre National un message destiné à amorcer un dialogue sur les oppressions que nous rencontrons en tant que personnes confrontées au psyvalidisme. Il faut bien se rendre compte que parmi chacun des groupes sociaux représentés dans ces occupations se trouvent des personnes neuroatypiques ou diagnostiquées, qu'il ne s'agit pas tant que ça d'une minorité et que partout, ce sont les dernières personnes qu'on écoute, même au sein de bien des communautés marginalisées. Nous tentions donc d'aborder le sujet, mais notre poste a été refusé, sans explication. Et quand nous avons demandé pourquoi, c'était parce qu'il ne rentrait pas dans la charte de la page, et c'était donc considéré hors sujet par rapport à l'occupation. Nous avons alors demandé à voir la charte qu'on nous a envoyée. En fait, elle était disponible, mais sans nous être accessible. Nous ne savions pas où la trouver. Petite parenthèse, c'est une nuance à réfléchir, la nuance qui existe entre ce qui est disponible et ce qui est accessible. Ça n'a pas du tout le même sens, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas y accéder, quelle que soit la raison. La charte stipule donc clairement que seront modérés les postes hors sujet. Elle stipule également que seront modérées les incitations à la haine, les postes contenant des propos validistes, les postes qui ne sont pas bienveillants. C'est parfait. Les mots-clés sont posés, on est safe, pourrait-on penser. Pourtant, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, sur cette même page se trouve un autre poste, plusieurs fois partagé, d'un article dont le titre est « On est chez les fous » et qui fait une comparaison entre deux pays pratiquant des politiques sanitaires différentes. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être lu, peut-être même partagé sans vous douter de son impact. « On est chez les fous ». C'est un exemple parfait, un cas d'école de psyvalidisme langagier, une expression trop courante qui nous stigmatise et qui perpétue une perception publique des situations de santé mentale comme de quelque chose de négatif, quelque chose de mal, quelque chose qu'on ne veut évidemment pas chez les fous. Pour rappel, les asiles psychiatriques ont été inventés pour enfermer les SDF, les travailleuses du sexe, les épouses récalcitrantes, les personnes au genre non conforme et par extension ce qu'on continue d'appeler communément les fous, les personnes neuroatypiques. En utilisant aussi légèrement le terme « fou » à toutes les sauces et sans y prêter attention, c'est de nous qu'on parle. De nous et d'autres anormaux qui, comme nous, n'ont pas voix au chapitre, pas plus que lorsqu'on nous enferme dans des institutions en nous retirant tous nos droits humains, au vu et au su d'une population dite « générale » qui nous abandonne dans ces cas-là avec un haussement de sourcils, soupirant un peu et nous souhaitant un bon rétablissement, pendant que leurs impôts servent à payer celles qui nous piquent et qui nous mettent sous camisole chimique, dans des endroits où l'on nous cache, chez les fous. Truc de ouf. Oh, c'est dingue. Taré, débile, abruti, triso, autiste, attardé, crétin. Ces mots-là nous atteignent et nous nuisent particulièrement parce qu'ils servent d'écran de fumée à la société normée, menaçant des personnes comme nous d'être traitées comme des déchets si on est visible, nous empêchant de sortir du bois, de nous montrer, de parler de nos besoins naturels. Parce que nous savons bien que nous faisons partie de ce que notre société appelle comme ça. Spoiler, nous ne sommes pas que fous. Nous ne sommes pas que trans. Nous ne sommes pas que queer ou bizarre. Ce sont juste des mots. Et personne n'est juste un mot. Nous, les bêtes humaines, nous ne sommes que certaines des fleurs dans ce champ magistral et varié, ce chant symphonique qu'on appelle la terre. Chacune sa forme, sa sève et son existence propre et spécifique au croisement de certains vents et évoluant avec les saisons de notre planète. À l'ère de la prise de conscience, d'une nécessaire prise en compte de la biodiversité, il est grand temps que nous fassions le lien. Il est dans ce mot « diversité ». Il est aussi dans le mot « intersectionnalité », comme l'a défini originellement Kimberlé Crenshaw, qui inventa ce mot pour parler de celle concernant les femmes noires, créant un mot pour un concept qui n'existait pas jusqu'alors pour parler des discriminations spécifiques qui naissent au croisement de plusieurs discriminations distinctes là où elles se rencontrent. S'il y a des mots derrière lesquels s'unir, ce sont ceux-là. Un grand problème que nous avons se trouve dans le fait que rien dans la société ou dans les arts ne nous représente. Quand c'est le cas, nous servons de rebondissement scénaristique, d'épouvantail au pire, de ressort comique dans le meilleur des cas. Le résultat est simple, l'ignorance. Et par voie de conséquence, l'oppression. Voir ce poste que nous avons évoqué, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder notre vase. Ça glace le sang de se voir exploité dans ce genre de métaphore par des médias sensationnalistes. Pourtant, ce n'est qu'un exemple. Ce serait stérile d'en vouloir à qui que ce soit en particulier. À qui exactement ? À la personne ayant écrit l'article ? À la personne qui le poste en reprenant « chez les fous » avec un émoji rigolard ? Aux personnes n'ayant pas su empêcher que ce poste soit diffusé ? Aux personnes qui commentent ? Aucune de ces personnes n'est responsable. Mais par contre, chacune peut participer au changement. Nous avons tous à apprendre et il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau de déconstruction. Il n'y a que le fait de rester en mouvement et d'évoluer ensemble, chacune à son rythme. Nous sommes tous ignorantes de tout ce que nous ne connaissons pas encore. Il n'y a que quand tous ensemble nous construirons une société plus informée, plus curieuse, que nous pourrons alors tous exister au grand jour sans avoir à nous en expliquer et que l'accès nous sera enfin donné pour raconter nos propres histoires, monter nos propres spectacles et nous exprimer de façon directe. C'est alors que nous n'aurons plus à masquer en permanence ce qui fait nos singulières beautés par des comportements qui ne nous ressemblent pas, mais qui sont encore aujourd'hui une condition à l'emploi dans tous les secteurs d'activité. Plutôt que de se laisser aller à penser ou à dire « Hey, elle est bizarre celle-là, elle sort toutes les 30 minutes, elle doit se droguer », nous pourrions travailler vers « Hey, je vois que tu as besoin de sortir régulièrement, veux-tu qu'on revoie le planning pour t'en donner l'espace ?» À la place de « Hey, il est chelou lui, il utilise un pseudonyme, il doit être prétentieux », commençons par dire « Enchanté, nouveau nom, quels sont tes pronoms ?» À la place de choses comme « Hey, n'engage pas cette personne, j'en ai entendu parler, elle est bizarre et c'est dur de bosser avec », entrons en communication directe pour définir les besoins et rendre l'espace de travail plus praticable pour la personne concernée et moins laborieux pour tout le monde. Parce qu'il y a des raisons. Personne n'a de plaisir à compliquer les choses. Il y a toujours des raisons, des histoires personnelles, un vécu. Cultivons la patience et l'écoute directe. Cultivons le crédit moral, la chance de l'instant, le confort équitable. Prenons le temps de s'imaginer concerné par ce qui arrive à l'autre. Prenez quoi que ce soit qui vous caractérise, qui fait votre identité sociale et politique dans le monde. Imaginez que cette identité est représentée systématiquement, soit dans des films où elle est associée à la violence la plus redoutable et incontrôlable, soit dans des expressions de la vie de tous les jours pour souligner l'aspect négatif des choses de la vie de tous les jours. Imaginez voir sortir des films d'horreur ou des livres à frissons qui utilisent votre quotidien en le déformant pour vous montrer comme un danger public, alimentant les peurs à votre égard. Imaginez apprendre toutes les semaines que tel ou tel pays passe des lois oppressives ou carrément criminelles à votre encontre, dans l'indifférence générale ou presque, pendant que des membres de votre communauté se font littéralement tuer partout dans le monde, y compris près de chez vous, par la police, par des médecins qui touchent des primes pour vous médiquer, ou par des personnes qui se justifient par la peur que vous leur inspirez. On pourrait aussi parler de toutes les personnes qui se suicident, faute d'être vues, faute d'être entendues, faute d'être appréciées pour ce qu'elles ont à offrir, ou parce que le paysage social les a convaincues qu'elles sont la lie de l'humanité. Nos adelphes transgenres et travailleuses du sexe le savent bien ce que ça fait tout ça. Nous vous encourageons tous à ne pas oublier l'aspect cyclique et permanent des remises en question et la perméabilité nécessaire à de nouveaux discours en dehors de vos zones de connaissance. Cultivons la patience et l'écoute, et soyons gourmands. Cultivons l'empathie, la bienveillance, et la sympathie. Bon, nous avons également une proposition précise et concrète. Nous aimerions demander si des personnes valides qui sont présentes régulièrement sur le terrain de ces occupations voudraient prendre en charge l'enregistrement sonore ou vidéo des débats, les réunir quelque part en ligne pour que toutes les personnes concernées par ces exclusions puissent y avoir accès, co-organiser la gestion et la transmission des réactions pour que le débat inclue enfin également toutes les actrices du secteur culturel et plus généralement les membres des communautés représentées ici qui n'ont pas le privilège de pouvoir être là en présentiel. Afin que nos voix soient entendues, malgré tout, à défaut de voir nos visages. Nous avons des choses à offrir, des points de vue à partager, qui feront grandir nos luttes, qui sont des luttes communes. En conclusion, la révolution sera accessible. Ce n'est pas compliqué, il suffit de ne pas nous oublier, de nous demander ce dont nous avons besoin et d'incorporer ça dans les méthodes de travail. Nous avons l'audace de penser que nous sommes de toute beauté et que nous le valons bien. La révolution sera accessible, ou alors ce ne sera pas la révolution, simplement la réplication d'un statu quo inacceptable. Si la société doit changer et la culture se relever, qu'elle le fasse en reflétant enfin l'humanité telle qu'elle est vraiment, dans toutes ses beautés. Merci.